Nel tuo libro I bianchi, gli ebrei e noi abbiamo colto l'invito alla decolonizzazione del nostro pensiero, ripensando ai fondamenti della cultura occidentale. Qual è il concetto di razza bianca più volte da te citato nel libro? O meglio, cos'è la buona coscienza bianca?
Nous avons voulu recueillir l'invitation à décoloniser notre pensée que vous faites dans votre livre Les Blancs, les Juifs et nous, en remettant en cause les fondamentaux de la culture occidentale. La première question de l'émission est sur la... On aurait voulu que vous preniez le temps d'expliquer pour nos éditeurs ce que vous entendez par race blanche et par bonne conscience blanche.
La race blanche, c'est des groupes qui n'ont rien à voir avec la nature ou avec la biologie. C'est une question sociale au même titre que ouvriers, au même titre que femmes, qui sont. Produit par l'histoire et les systèmes sociaux et les systèmes politiques.
La razza bianca non è una questione di biologia, ma è una razza sociale come lo può essere la categoria di operaio o la categoria di donne, quindi è un rapporto sociale in un sistema di potere.
Oui, donc la être blanc, c'est surtout de l'esprit d'un rapport social, de domination. De la même manière que être noir, c'est au contraire, c'est être soumis à un rapport de pouvoir. Donc, il s'agit bien de relations de pouvoir.
Essere bianco e essere privilegiato in un rapporto di dominazione, come essere nero e subire questo rapporto di dominazione nel quotidiano.
Voilà, par exemple aujourd'hui, j'ai appris qu'un Sénégalais avait été tué, je crois, en Italie, je ne sais plus où en Italie, mais c'est une nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui. Et bien, le fait qu'on puisse tuer un Sénégalais de manière assumément comme ça, ça fait partie des rapports sociaux de race.
Per esempio, oggi ho saputo che un senegalese è stato ucciso in Italia, a Firenze, e per esempio il fatto che si possa così ammazzare una persona nera in punamento fa parte di quello che io chiamo i rapporti sociali di razza. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, j'entends. Okay. On va poursuivre dans l'explication ou j'attends la prochaine question?
Ah non, on peut continuer.
Ah d'accord. D'accord. Donc à partir du moment où on constate dans une société donnée, par exemple en France, en Italie, ce genre de rapports sociaux, pour ceux qui le subissent, bah, nous, par exemple, les sujets post-coloniaux en France, on est noirs, on est arabes, on est musulmans, eh bien, il s'agit pour nous de nous mobiliser autour de ce fait. Lutter contre la race comme système de pression pour évidemment l'abolir. Mais les bassins.
Alors. Quindi noi in questo contesto di una società che è fondata su questo rapporto sociale di razza, noi in quanto soggetti postcoloniali in Francia o in Italia ci dobbiamo mobilitare attorno a questa questione della razza in quanto sistema contro il quale dobbiamo lottare.
Alors, j'ajoute à ça le fait que les sujets racialisés font tous partie de, la plupart en tout cas, de manière majoritaire, font partie de la classe ouvrière. Or, tout le problème, il est que, en fait, il y a des rapports et des conflits d'intérêts à l'intérieur de la classe ouvrière, entre ceux qui sont considérés comme illégitimes dans la nation et ceux qui sont considérés comme légitimes dans la nation, c'est-à-dire la classe ouvrière blanche.
Allora, bisogna soprattutto aggiungere che noi, in quanto soggetti razzializzati, in genere, diciamo, la maggioranza di noi facciamo parte della classe operaia. però tutto il problema è che c'è un conflitto interno a questa classe operaia tra i soggetti legittimi della classe operaia, che sono gli operai bianchi, e i soggetti illegittimi di questa classe operaia, i soggetti illegittimi della nazione, che siamo noi.
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'unité, en tout cas entre les sujets postcoloniaux et la classe ouvrière, qu'il n'y a pas une unité de classe. Et qu'en réalité, cette unité, si on veut la construire, il faut passer par la lutte contre le racisme structurel.
Ed è perciò per questa ragione che non c'è unità tra i soggetti postcoloniali e la classe operaia. Non c'è un'unità di classe, di così per essenza. C'è un'unità che si può costruire, però per costruirla bisogna riconoscere quello che è il razzismo strutturale, il razzismo di Stato.
Voilà, je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter, je ne crois pas.
Non, non, bah, c'est parfait, on peut passer à la deuxième question si on y arrive.
Nel secondo capitolo affermi quanto gli ebrei siano simili agli arabi, cugini, cosa intendi?
Alors la deuxième question porte sur le chapitre dédié aux juifs. Vous affirmez que les juifs sont similaires aux arabes, ou tout du moins qu'ils ont qu'ils sont cousins. Est-ce que tu pourrais préciser ta pensée pour nos auditeurs? Alors je suis désolée, je t'entends pas. Allô?
Oui?
Oui. Est-ce que tu as pu entendre ma question ou pas?
Justement, je n'ai pas compris la question.
Ok. Alors, c'était sur... lorsque tu dis dans ton livre que les Juifs et les Arabes ont un rapport de cousinage, enfin qu'ils sont en quelque sorte, qu'on pourrait dire qu'ils sont cousins.
Oui.
Donc, c'était de savoir, est-ce que vous pouvez préciser... Est-ce que tu peux préciser ta question pour nos auditeurs? Parce que
bien
c'est...
Bien sûr. Alors, évidemment, je parle de la France, hein. Je ne parle pas d'une situation hors de la France. En France, les juifs ne sont toujours pas intégrés au récit national comme le sont les blancs. Ce qui signifie qu'en fait, ils sont à une échelle inférieure par rapport aux blancs, mais en même temps, et c'est ça le paradoxe de l'affaire, c'est qu'ils sont à une échelle supérieure par rapport aux noirs et aux arabes. Donc en fait, c'est pour ça que je les distingue des autres, c'est parce qu'ils ne sont pas discriminés au sens où ils subissent les discriminations au travail en France. De la même manière, ils ne sont pas persécutés par la police, contrairement aux Noirs et aux Arabes, et en même temps, ils bénéficient de ce que je pourrais appeler une racialisation positive par rapport aux Noirs et aux Arabes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont bien vus. Mais en même temps, l'État n'admet pas, en quelque sorte, que les Juifs soient complètement blancs. En fait, les Juifs ne sont toujours pas blancs, malgré tout. Donc, en fait, c'est une méthode de discrimination un peu paradoxale.
D'accord. Alors, on a eu des problèmes de connexion, donc je n'ai pas tout entendu. Je vais quand même essayer de traduire. Uria Boutej, ci dice bene che sta parlando del contesto francese. Quindi nel contesto francese gli ebrei e gli arabi e i neri non sono integrati nello stesso modo. In realtà lei considera che gli ebrei sono a uno scalino un po' superiore ai soggetti postcoloniali, quindi gli arabi e i neri, per esempio. Non sono assimilati nello stesso modo. Per esempio, gli ebrei non sono discriminati sul lavoro, come non sono persecutati dalla polizia, come invece è il caso, come sappiamo, per gli arabi e i neri in Francia. E in un certo senso traggono beneficio di una specie di razzializzazione positiva, nel senso che gli ebrei sono ben visti. Però, nello stesso tempo, in modo paradossale, comunque lo Stato non considera gli ebrei come dei bianchi proprio a part entière. E quindi c'è una discriminazione, ma una discriminazione che è paradossale.
C'est ça. c'est exactement ça, c'est ce que j'ai compris.
Ok. Alors, on va passer à la troisième question.
Oui.
Per ultima domanda, volevo chiederti cosa intendi per amore rivoluzionario.
Alors, la dernière question est assez large, mais en gros, on aurait voulu savoir si tu pouvais expliciter pour nos auditeurs ce que tu entends par amour révolutionnaire.
Alors, je dirais que c'est une idée un peu romantique, d'une certaine manière, puisque on vit une époque extrêmement dangereuse. Dans toute l'Europe, il y a une montée du fascisme, mais pas qu'en Europe, aux États-Unis, on l'a vu. Les gauches européennes sont extrêmement faibles. Non seulement elles sont faibles, mais en plus, elles ont du mal à comprendre le bénéfice qu'elles pourraient tirer d'une alliance avec les immigrés, avec les enfants d'immigrés. Au contraire, elles s'en méfient, je parle en gros. Et donc, du coup, on est dans une situation où nous sommes tous politiquement extrêmement précaires. Et là, l'enjeu, c'est de retrouver de l'espoir. Or, je dirais que c'est un concept un peu désespéré, l'amour révolutionnaire, mais il contient quand même un espoir. Ceux qui ne veulent pas la guerre, ceux qui veulent conjurer la guerre, eh bien, doivent s'unir pour au moins empêcher le pire d'arriver, c'est-à-dire le fascisme.
Ok. Allora, il concetto dell'amore rivoluzionario è un po' un'idea romantica, nel senso che noi viviamo in un'epoca molto pericolosa, come possiamo vedere in Europa o negli Stati Uniti. Vediamo bene che le nostre sinistre europee sono molto deboli e hanno grande difficoltà a capire il beneficio che ci sarebbe da fare un'alleanza, una vera alleanza con i soggetti postcoloniali o gli immigrati. Anzi, in genere... Le sinistre europee non si fidano di questa possibile alleanza e quindi di questo fatto noi siamo tutti molto precari e quindi questo concetto di amore rivoluzionario è un concetto che ci potrebbe permettere di ritrovare una speranza, nel senso che in questo contesto senza speranza quelli che non vogliono la guerra, quelli che vogliono la pace si devono unire. E quindi ci possiamo unire con i soggetti postcoloniali per non cadere appunto nel fascismo.
Oui, c'est ça.
Ok, je pense que c'est pas mal pour une petite introduction.
Ouais.